Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Soir Info en direct sans aucune interruption jusqu'à minuit, émission évidemment très largement consacrée aux explications, à l'interview donnée par Emmanuel Macron autour du soutien à l'Ukraine, cette clarification voulue par beaucoup de Français autour des récentes déclarations du chef de l'État. On va en parler avec le général Vincent Desportes qui est avec nous ce soir. Bonsoir mon général, ancien directeur de l'école de guerre, notamment Karim Abric de la rédaction est parmi nous, tout comme Thomas Bonnet du service politique. Bonsoir à tous les deux de l'autre côté de la table. Bonsoir à vous. Denis Deschamps, géopolitologue. Merci bonsoir. Également d'être là pour une première dans Soir Info. Alexandre Devecchio, un habitué.
Bonsoir.
Toujours aussi bonne mine, Alexandre. Je ne sais pas comment vous faites. Merci d'être avec nous. Éric Tegner également. Bonsoir. Bonsoir à vous. La Russie est un adversaire. Il ne faut pas être faible. Emmanuel Macron s'est expliqué donc face aux Français ce soir. Vous l'avez entendu sur l'antenne de CNews en direct tout à l'heure pour parler de l'Ukraine, de l'aide française à apporter à ce pays en guerre contre l'envahisseur russe depuis plus de 2 ans désormais, un moment de pédagogie, de vérité, d'unité voulue par le chef de l'État. On va se poser la question si l'exercice est réussi. On va largement débriefer donc cette intervention. Premier extrait d'Emmanuel Macron sur cette clarification très attendue autour des déclarations auxquelles personne n'a échappé, cet envoi annoncé éventuel, en tout cas de troupes occidentales en Ukraine. Écoutez le président.
On y est. La guerre est sur le sol européen. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin. Ce ne sera pas nous. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Je souhaite que la Russie cesse cette guerre, se retire des positions qui sont les siennes et permette la paix.
Mais vous n'y croyez plus.
Mais ce qui est important ici, d'abord, un, ça n'est pas mon souhait. Mais deux, je ne vais pas donner de la visibilité à quelqu'un qui ne m'en donne pas. C'est au président Poutine qu'il faut poser cette question. Enfin, allez lui demander où sont ses lignes rouges. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine. Et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que la responsabilité de la Russie. Et donc nous, si, ça veut dire que nous, si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si... Face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement « je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela ». À ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défaite.
Et vous
Général Desportes, le sursaut ou la faiblesse, c'était l'axe choisi par le président de la République ce soir pour justifier la position française des dernières semaines. Avant de rentrer sur le fond de la question, avez-vous, sur le fond des différentes questions qu'on a à se poser, l'exercice a-t-il été réussi, selon vous, par le chef de l'État ce soir ?
Je pense qu'on trouvera beaucoup d'esprit chagrin pour trouver qu'il en a fait trop, qu'il en a fait ou qu'il n'en a pas fait assez. En tout cas, il devait se livrer à cet exercice. Il a délivré. Est-il parfait ? Non. Mais il devait réveiller la France, il devait expliquer, il devait clarifier ses propos qui n'avaient pas toujours été clairs et qui ont donné lieu à un certain nombre de commentaires. Il fallait clarifier, il a clarifié.
Vous trouvez que c'est plus clair ce soir ? Les Français sont plus éclairés sur cet envoi éventuel de troupes, sur la position de la France. On fait quoi ? Jusqu'où ? Pour quel résultat ? Vous trouvez qu'on a des réponses ce soir ?
Je peux vous le dire, ce qu'il a dit.
Allez-y.
Oui, bien sûr. Il était dans un exercice qui était compliqué, entre un exercice de clarté, et il a clarifié, et la nécessité de préserver l'ambiguïté stratégique qui est un outil majeur. Donc il était entre les deux, et je pense qu'il a réussi les deux. Il a bien donné l'objectif qui était, un, la Russie ne peut pas gagner, c'est une guerre qui est existentielle pour nous, et je le pense profondément, et nous ne devons pas laisser l'Ukraine perdre. Il a dit fort justement, je ne sais pas jusqu'où tout cela nous mènera, je n'ai pas une obligation de moyens, j'ai une obligation de fin. Pas pour les Ukrainiens, pour les Français. Parce que c'est bien les valeurs françaises, c'est bien la France, c'est bien l'Europe, c'est bien ce qui nous fait, nous, Européens, qui est aujourd'hui menacé. Et donc, il l'a dit clairement, je trouverai les moyens, des fins qui vous protégeront, vous, Français. Donc, moi, je trouve que l'exercice est réussi. Il aurait pu être meilleur, plus long, plus court, mais globalement...
Peut-être un peu moins professoral, parfois, aussi.
Comment ?
Peut-être un peu moins professoral, mais là, c'est plus une question
moi,
de forme.
Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aurais été lui, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais fait un discours solennel à Churchill en disant, voilà... Le sujet, j'aime bien les journalistes, sinon je ne serais pas là. Mais je pense que dans cet exercice-là, il aurait pu avoir une posture encore plus solennelle. Parce que
ça viendra l'éventuel jour où les intérêts de l'OTAN, de l'Union européenne, pourraient être menacés par la Russie. Mais c'est à ce moment-là que cette posture solennelle devrait être prise. Il ne faut pas brûler les étapes, peut-être.
Non, vous avez raison. Mais c'est pour ça que je dis peut-être que le ton churchillien était encore un peu trop, aurait été précoce. Mais ne nous en trompons pas. D'ailleurs, il a dit que la vie des Français serait profondément modifiée si la Russie gagnait. Donc, il a cherché à expliquer aux Français. N'oublions pas que dans cette affaire-là, il avait plusieurs auditoires, plusieurs audiences. Les premiers étaient les Français, mais presque à même niveau, il y avait les Européens, et puis il y avait évidemment la Russie. Il parlait à trois auditoires différents. N'oublions pas cela. Il parle à trois auditoires différents, donc il doit trouver quelque chose qui parle à ces trois
auditoires. Quel est l'auditoire le plus important ce soir ? Quel était l'auditoire le plus important ce soir, selon vous ?
Ils sont aussi importants. Un, je dis à Poutine... J'ai une obligation de fin et je trouverai les moyens. Et on sait que la France a des moyens extrêmement importants. Deux, les Français, vous êtes concernés par cette guerre. La liberté n'est pas gratuite et un jour il faudra la payer, il l'a dit. Et trois, les Européens, nous sommes ensemble. Et il a un devoir maintenant, puisqu'il a provoqué un électrochoc, bien ou mal, mais il l'a fait. Ce n'est pas la France qui se bat, c'est bien l'Europe, parce que la France tout seule ne peut pas.
Oui, ça, il fallait vraiment le clarifier, parce que les déclarations d'il y a 3-4 semaines engageaient d'abord la France et le président de la République.
Vous avez raison. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un leader quelque part.
C'est vrai.
Et ce qui est tout à fait important, c'est que demain, on le sait, il va voir le président, le chancelier Scholz.
Et le président polonais.
Et le Premier ministre, je crois.
Hein. Ah, pardon.
Le Premier ministre polonais. Je crois que c'est important, parce que les trois acteurs majeurs militairement en Europe... Aujourd'hui, je ne parle pas de la Grande-Bretagne qui fait partie de l'Union européenne, c'est bien l'Allemagne, la Pologne et la France. Et je crois que c'est ensemble où on doit arriver à créer ce front. Et il y a des choses à réparer avec le chancelier Scholz, on le sait, parce que le président Macron, il a des qualités, mais il en a une qu'il n'a pas, c'est d'être tout le temps très adroit, c'est sûr, et que donc il y a là, un peu de travail à faire.
On va écouter pas mal d'extraits et on rebondira à chaque fois pour bien comprendre et analyser ce qu'a voulu dire le chef de l'État ce soir. Général, vous l'avez évoqué, Emmanuel Macron qui a rappelé que si la Russie gagnait, la vie des Français serait chamboulée et changerait. Écoutez ce nouvel extrait.
Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait.
De quelle manière ?
Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là ?
Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, également des intérêts vitaux de la France. Il y a un danger existentiel pour la France.
La sécurité de l'Europe... Et la sécurité des Français se joue là-bas.
Denis Deschamps, faisons-nous aussi, à l'instar du président de la République, un peu de pédagogie, si c'est possible, ce soir. Qu'est-ce qui nous menace, et chacun et le général pour intervenir, bien sûr, aussi. Qu'est-ce qui nous menace concrètement, aujourd'hui, justement, dans ce scénario où la Russie viendrait à l'emporter ? À quel point les Français, les Européens, sont concernés par cette guerre ? Parce que c'était l'objectif également du président de la République, nous faire comprendre ces enjeux-là.
Alors en fait, il y a une vraie menace, effectivement. On va prendre un petit peu de hauteur et on va imaginer la carte d'Europe au-dessus de nous. Mmh. En réalité, Poutine, s'il n'a pas de frein, il ne va pas cesser sa gourmandise. On parle de la Transnistrie, par exemple, avec la Moldavie qui est juste derrière, qui n'est pas encore dans l'Union européenne. Donc ça peut être une proie très facile pour lui. L'autre étape, c'est que...
Jamais cet objectif n'a été avoué.
Non, mais d'ailleurs, les objectifs de guerre de Poutine en Ukraine n'ont pas été avoués, mis à part d'envahir la totalité de l'Ukraine, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai dit, d'ailleurs, sur ce plateau-là, le premier jour de la guerre ne cessera que lorsque Poutine aura atteint tous ses objectifs de guerre, car c'est lui le maître des horloges. Ensuite, il y a aussi une autre gourmandise à portée de Poutine, ce sont les pays baltes. les trois pays baltes qui sont d'ailleurs qui enclavent Kaliningrad, ça c'est un vrai risque. Sauf que là, la grande différence avec la Transnistrie et la Moldavie, c'est que les pays baltes font partie de l'Europe et font partie de l'OTAN. Ce qui veut dire que si les pays baltes sont attaqués par Poutine, l'article 5 de l'OTAN va rentrer en ligne de compte et tous les pays de l'OTAN vont devoir se coaliser pour lutter, pour défendre ces trois pays-là. Donc en fait, on peut avoir un effet domino. Vous voyez, ça peut aller assez loin. Alors, j'imagine pas Poutine venir jusqu'à Brest, ça c'est une évidence, mais en attendant, l'Europe serait contrainte de participer aux efforts de l'OTAN pour mobiliser des troupes. Alors après, je pense que l'Europe, et le général Desportes nous en dira probablement beaucoup plus là-dessus, moi je pense que l'Europe n'est pas prête, n'est pas disposée, contrairement aux États-Unis, à engager des troupes très facilement parce qu'on n'est pas coordonné, parce qu'on n'est pas structuré pour ça. Et là, ce serait extrêmement compliqué de le faire sans les Américains. Cependant, les Américains nous ont fait la démonstration, d'ailleurs on va reprendre l'image de notre président Macron, hein, vous êtes assis, vous êtes debout,
oui,
vous êtes assis.
C'est comme ça qu'il a commencé le...
Bon, eh bien moi je pense que Biden est en train de s'asseoir. C'est-à-dire que les Américains sont en train de refluer, on le voit financièrement et au niveau matériel, donc c'est là le vrai danger. Et en réalité, qu'est-ce qu'il fallait voir ?
C'est là que l'urgence d'une Europe debout est prégnante, voilà, en effet. Ouais.
Alors ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'il n'a pas dit. Pourquoi en fait il se lève en chef de guerre ? En fait, il veut le poste de commandant en chef. Puisque comme les Américains sont en train de refluer, maintenant il sent l'urgence que si les Américains s'en vont, il n'y a plus le parapluie européen en Europe et on est vraiment en danger. Donc il est en chef de guerre et maintenant il lui reste les 26 Européens à coaliser derrière lui. Alors il a dit qu'il y en a deux ou trois qui commencent à le suivre petit à petit. Donc je pense que la clarté était nécessaire par rapport à ces annonces de février, mais il y a encore un petit peu de chemin de pédagogie à faire.
Petit tour de table avec nos autres invités qui n'ont pas encore pris la parole. J'aurais peut-être qu'on voit, tiens, deux, trois réactions de responsables politiques français qui ont évidemment, comme chacun d'entre nous, écouté attentivement Emmanuel Macron. Pour Jean-Luc Mélenchon, le président fait peur ce soir. Il s'est cassis, donc il reprend l'image du président en début d'émission. Il s'est cassis. On finit par se lever et que si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même. Ceux qui veulent la paix préparent la paix. Lui, non, dit Jean-Luc Mélenchon. On va en mettre 3-4 des différents bords politiques. Après cette nouvelle déclaration, dit Éric Ciotti d'Emmanuel Macron, je m'interroge. Veut-il faire la guerre à la Russie ? Occuper l'espace politique en pleine campagne des Européennes ? Soutenir l'Ukraine ? Oui. Souffler sur les braises d'un potentiel conflit ? J'imagine qu'il y a non derrière, mais je ne l'ai pas lu. Emmanuel Macron fait l'éloge de la force pour Éric Zemmour et répète à l'envi, il ne faut pas être faible en parlant de la Russie, mais où sont ces principes avec les pays qui ne prennent pas leurs ressortissants sous OQTF, avec les trafiquants de drogue, avec les djihadistes, se demande Éric Zemmour étonnamment. Et puis Manon Aubry, pour revenir très à gauche, on ne sait pas si Macron est debout ou assis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est couché face au va-t-en-guerre. En confirmant la possibilité d'envoyer des troupes au sol, il risque une guerre généralisée avec une puissance nucléaire. Où est la France de la paix ? Lequel de ces responsables politiques a compris quelque chose de ce que a voulu dire Emmanuel Macron ce soir ?
Non mais, oui, effectivement, il faudrait revenir sur plusieurs points. Tout à l'heure, le Vincent Desportes a expliqué que le président de la République avait fixé une fin sans fixer les moyens. Bah, moi, en tant que citoyen, je me dis, si on a un objectif, mieux vaut avoir les moyens. Alors, je comprends qu'on ne révèle pas à l'adversaire ses moyens et sa stratégie.
Logique, hein.
Mais je suis pas un expert absolu. Mais on peut douter quand même de l'importance de nos moyens aujourd'hui.
On va se parler en tant que Français, en tant que citoyen ce soir. Dans quel état ressortez-vous après cette demi-heure d'interview ?
Quand il dit on va envoyer les troupes, comme il l'a dit précédemment, de quelles troupes parle-t-il ? Très sincèrement, est-ce que nous avons les moyens de faire la guerre à la Russie ? Donc quand on se vérifie des
fixes... La réponse est oui, si c'est un pays de l'OTAN ou de l'Union qui est attaqué ensuite.
Oui, mais pour l'instant, on n'en est pas là et espérons qu'on ne s'en soit jamais là. Donc quand on a des objectifs, il vaut mieux avoir les moyens de réaliser ces objectifs. Là, j'ai l'impression qu'il fixe des objectifs dont il n'a pas justement les moyens. Ensuite, il explique la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Il y a plusieurs moyens de perdre la guerre, j'ai envie de dire, pour la Russie. Enfin, qu'est-ce qu'il entend par gagner cette guerre ? D'une certaine manière, la Russie l'a déjà perdue, puisqu'à un moment donné, elle voulait aller à Kiev. On voit bien qu'elle n'est pas à Kiev. Est-ce que trouver un compromis territorial maintenant, ce serait une défaite ou pas pour la Russie ? Ça peut être un point, je dirais, de consensus, et c'est peut-être celui qui va être trouvé avec les États-Unis, très probablement d'ailleurs, si c'est Donald Trump qui est élu plus dans quelques mois. Donc il dit la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Moi, je ne sais pas ce qu'il entend par pas gagner cette guerre. Évidemment, la Russie ne doit pas prendre toute l'Ukraine, mais on en est très très loin. Ensuite, il nous dit c'est une menace existentielle pour la France. Là encore, je ne suis pas entièrement convaincu. On est tous d'accord que les chars russes ne vont pas arriver à Paris. Je ne crois pas tellement non plus à l'effet domino, puisqu'on voit bien qu'ils n'arrivent pas. Certes, la contre-offensive ukrainienne s'est moins bien passée, s'est mal passée, mais on voit bien que Vladimir Poutine n'a pas tant avancé que ça dans cette guerre. Et donc, je ne crois pas qu'il soit là pour aller prendre la Pologne ou je ne sais quel pays de l'OTAN. Non, mais... donc, on ne mettra pas de l'idée qu'effectivement, peut-être Emmanuel Macron veut prendre une posture de chef de guerre au moment où les États-Unis se retirent, et surtout, il veut prendre une posture au moment des élections européennes, faire de cette question de la guerre en Ukraine.
Attendez, alors, brûlez pas toutes les cartouches de cette émission en une intervention, cher ami, parce que sinon, on va fermer la boutique tout de suite.
C'est peut-être ma déformation professionnelle, mais j'ai vu une interview de politique intérieure, très sincèrement. Cette question de la guerre en Ukraine, on l'avait presque oubliée. Ça fait 2 ans que ça dure. On n'en parlait plus tous les jours. Il y a eu la guerre entre Israël et le Hamas. Et là aussi, menace existentielle, si on va par là, l'islamisme est déjà là dans notre pays. Donc, d'une certaine manière, en jouant sur les mots, on peut dire que c'est aussi une menace existentielle. Donc oui, moi, encore une fois, j'ai l'impression qu'il parle de cette guerre maintenant parce qu'elle sert son agenda politique.
Mais ce serait particulièrement cynique et irresponsable. Et j'ose espérer qu'il y a quand même des enjeux un peu plus...
On a un Premier ministre qui a expliqué que les troupes russes étaient des parlementaires français. Pardon, c'est cette rhétorique-là, oui. C'est la rhétorique du couple exécutif.
Bon, Éric Tegner, je vous laisse répondre. On fait le tout le tour de table, évidemment. Je voudrais qu'on entende encore, pour rythmer nos débats, un autre extrait du président de la République qui fait donc officiellement ce soir de Vladimir Poutine et de la Russie des adversaires.
À coup sûr, aujourd'hui, la Russie est un adversaire. Le régime du Kremlin est un adversaire. Mais je l'ai toujours dit, nous ne faisons pas la guerre à la Russie et au peuple russe. Et nous soutenons l'Ukraine, nous faisons tout pour qu'elle puisse mettre la Russie en échec, parce que, je vais vous dire très simplement, il n'y a pas de paix durable s'il n'y a pas une souveraineté et un retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine.
Éric Tegner, le but ce soir, on verra s'il y a d'autres considérations telles que la politique intérieure et les échéances européennes dans un peu moins de 3 mois. Mais il y a vraiment cette impression pendant une demi-heure que le président a voulu faire prendre conscience aux Français de l'importance de ce conflit, des répercussions qu'il a et pourrait avoir encore plus sur nous, Français.
Moi, je vais vous parler juste des 30 minutes hein, de son exercice. Je ne sais pas du tout ce qu'il fera après, parce qu'on est habitué aussi à ce qu'Emmanuel Macron commence quelque chose, mais ne le termine pas. Dans les faits, ce soir, je l'ai trouvé plutôt bon. Déjà, il faut quand même souligner qu'en étant sur TF1 et France 2, il parle entre à 15 à 16 millions de Français.
En étant sur CNews aussi.
C'est quelque chose...
Rajouter quelques millions, cher Eric.
Après, il y a tous les commentaires, etc. Donc, demain matin, il y aura plus de 25 millions de Français qui l'auront écouté au moins partiellement. Parce qu'aujourd'hui, on voit très clairement qu'il y a un soutien des Français à l'Ukraine qui est en train de baisser, y compris sur les questions des aides financières, donc pas uniquement sur l'emploi.
Les sondages ont montré, hein.
Exactement.
Depuis 3-4 semaines, que les Français sont pas du tout favorables à une entrée en guerre, de quelque manière que ce soit.
Et là,
de la
il
France,
avait un exercice de pédagogie. Il a pu dire, hein, elles vivent, c'est à 1500 km de Paris, donc il a pu être très concret sur ces éléments-là. Moi, je l'ai trouvé assez bon. L'autre élément, c'est qu'il avait besoin, évidemment, de clarifier ce qu'il avait dit. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire, ce bon exercice de ce soir souligne à quel point il y a 15 jours il avait plutôt mal fonctionné en répondant à une question d'un journaliste en ne se concertant pas, etc. Donc c'est une sorte d'aveu de faiblesse en faisant un exercice qu'il trouvait aussi important. Et le dernier point, c'est que ce qui fait que les Français aussi se détournaient un peu de son idée depuis 15 jours, c'est qu'il y avait ce sentiment alimenté par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, mais l'ensemble des porte-paroles de Renaissance, que c'était d'abord utilisé pour des raisons politiciennes. Moi, je trouve que ce soir, je l'ai trouvé plutôt mesuré à l'égard du Rassemblement national. Je note d'ailleurs que Marine Le Pen n'a toujours pas tweeté, hein, ce qui veut dire qu'il n'a pas donné de cartouche.
C'est pas faux.
S'il avait voulu être aussi politicien qu'il l'a été ces dernières semaines, elle aurait tout de suite réagi. Donc là-dessus, je l'ai trouvé.
D'ailleurs, est-ce que c'est le président de la République ou le chef des armées qui s'est exprimé ce soir? Alors, et j'ai l'impression que c'est plus le chef des armées qui a pris cette posture.
En fait, c'est là où je parle aussi d'arguments, parce que l'argument intérieur l'extérieur compte. Il a besoin de montrer que la population française le soutient s'il veut être respecté par Vladimir Poutine. En Russie, il se moque souvent à chaque fois des manifestations contre Emmanuel Macron. Donc, qui sait qui doit convaincre l'opinion? Moi, je trouve qu'il a compris qu'en fait, pour pouvoir réussir, y compris cette campagne des élections européennes, il fallait qu'il montre une forme de cohérence, une forme de clarté. Il fallait qu'il n'ait pas l'air de tomber uniquement dans des logiques politiciennes parce que les Français ne sont pas dupes. Après,
il y avait l'occasion de faire d'une pierre deux coups.
Bien sûr, mais mon sentiment, c'est qu'on est habitué à ce que, voilà, dans deux semaines, on verra tout à fait d'autres déclarations qui vont faire le contraire, etc. Et là, à ce moment-là, on va pas comprendre. C'est ça le grand problème qu'il a. Tenir pour lui une politique de cohérence sur trois mois, c'est quand même en général difficile.
Thomas Bonnet, du service politique. L'Élysée avait communiqué, je ne sais pas quand c'était, à quel moment de la journée, mais pour décrire ce qui nous attendait, et je l'ai dit dans le lancement tout à l'heure, c'était un moment de pédagogie voulue, de vérité, d'unité, donc demandé par le chef de l'État. Est-ce que ces trois prérogatives ont été respectées selon vous ?
Écoutez, je me mets, Julien, vous avez dit, on est des citoyens ce soir, je me mets à la place des Français qui ont écouté cette interview. Je pense qu'ils ressortent avec plus de questions que de réponses. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai aujourd'hui plus d'interrogations.
Sur la question, quelle solution concrète a apporté ce soir le président de la République? Je n'ai pas la réponse, mais général, je reviendrai vers vous après avoir entendu Karima également.
Pourquoi cette interview a été organisée ce soir? Parce qu'il y a deux semaines, Emmanuel Macron a répondu à une question d'un journaliste.
C'est vrai.
Et il a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes. Depuis, ses commentaires permanents dans toute l'Europe, tout le monde le dédie. Il est donc obligé de faire un exercice de clarification qui est pas clair au final, parce qu'on ne sait toujours pas en quoi il s'agit d'une guerre existentielle pour la France. Alors on nous dit, de manière assez hypothétique, que si la Russie gagne en Ukraine, elle va finir par envahir la Pologne, les Pays-Baltes, sans ces réelles certitudes. Emmanuel Macron aurait dû expliciter les menaces qui planent aujourd'hui de manière très concrète sur les Français, les cyberattaques.
Il en a été question,
mais de manière assez...
Il a parlé des hôpitaux.
Et d'ailleurs, il a évoqué cette guerre hybride qui a déjà commencé d'une certaine manière entre la France et la Russie.
Il aurait dû insister sur ce principe-là pour expliquer que la Russie visait déjà la France, et ça n'a pas été assez clair de la part du chef de l'État. Aujourd'hui, pourquoi la France enverrait des troupes en Ukraine si ses intérêts vitaux ne sont pas touchés, comme l'a dit le président de la République? Donc il y a encore beaucoup de questions.
Un leader européen qui a durci le ton face au Kremlin ce soir. Voilà à quoi nous avons assisté, cher Karima.
Mais en fait, pour ce qui est de, si on revient sur l'exercice comme tel, moi je pense que l'aspect d'arriver avec quelque chose d'hyper solennel et tout ça, je pense que ça aurait été un peu trop. Ça aurait peut-être même été inquiétant. Si vous n'avez rien à annoncer concrètement, ça ne sert à rien. Donc l'exercice de discuter, ça fait en sorte qu'effectivement, il a lancé une sorte de, non pas de bombe médiatique, mais quand il dit l'évocation de ses troupes au sol il y a deux semaines, effectivement, ça crée à tout le moins une onde de choc. Donc, de faire cet exercice de discussion posément avec des journalistes, c'est une façon de rassurer aussi la population.
Mais personne ne l'est vraiment ce soir, c'est ça le souci.
Ce que je veux dire, c'est quand même l'objectif de ça, c'était
oui, l'objectif. Oui, c'était l'objectif. La question, c'est est-ce qu'il est rempli?
Mais en fait, il y a quand même plusieurs choses. C'est que sur la question des troupes au sol, au fond, ce qu'il dit, c'est toujours, on a quand même l'impression d'être un peu à la traîne de la Russie, parce que ce qu'il dit, au fond, il a dit « Jamais nous ne mènerons d'offensive, nous ne prendrons pas l'initiative », mais il garde quand même cette option, si vous voulez, dans son baluchon, si la situation devait complètement dégénérer, en se disant « Ben, finalement, la ligne rouge, c'est pas nécessairement juste la Russie qui va décider. Nous, au fond, on veut assurer la protection de la France, de l'Europe. » Et pour ce qui est de l'Ukraine, peut-être que vous aurez un avis sur ça. Moi, je trouvais ça quand même important parce que il a dit il n'y a pas de paix durable s'il n'y a pas une souveraineté, un retour aux frontières reconnues de l'Ukraine. Alors, je trouve qu'on est quand même passé vite sur la question de la Crimée, notamment. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, je trouve que ça engage effectivement beaucoup. Et peut-être en terminant, de toute façon, on va avoir le temps de discuter abondamment.
On a le temps parce qu'il y a énormément de choses
sur
à dire.
L'exercice, en fait, bon, peut-être la vertu de la sortie d'Emmanuel Macron, c'est de forcer ses alliés européens à se positionner, à se dire, bon, ben finalement... est-ce qu'on va être un peu seul si les États-Unis se désengageaient ou au moins s'ils n'offraient pas autant de soutien qu'on le souhaiterait, justement, en termes de milliards de dollars et d'appui? Donc, qu'allons-nous faire, nous, en tant que puissance européenne? Je pense qu'il force un peu la chose et je vous dirais qu'il met un peu cette idée dans la tête aussi, non seulement des Européens, mais de ses alliés, en se disant, ben, peut-être que la solution d'aujourd'hui, ce n'est pas celle de demain. comme l'a prouvé l'évolution même de sa pensée. Hein. Au départ, il disait qu'il ne voulait pas humilier Vladimir Poutine. Hein, il disait...
Il faudrait
se garder des chemins de sortie par les voies diplomatiques. Et aujourd'hui, il est le premier en Europe à avoir évoqué cette option, même si...
Le seul.
Oui, c'est ça, exactement.
Les Lituaniens et les Tchèques sont derrière.
Oui, et les Lettons aussi, je crois. Enfin, il y a 3-4 nations qui commencent à suivre le chef de l'État. Vouloir la paix n'est pas choisir la défaite. Écoutez.
Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite. Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine.
C'est faire
vouloir
la guerre.
La paix, non. C'est d'être crédible, d'être fort et prêt pour nous adapter au choix que la Russie ferait. Et donc si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite.
Pourquoi vos homologues ne le disent pas ?
Et ça, je ne le veux pas.
Gérald Desportes, je reprends les mots utilisés par le président de la République. La France est-elle, et je vais le tourner dans une question, bien sûr, est-elle crédible, forte et prête ?
Bien, alors je crois qu'on en revient au problème des moyens qui...
Ça commence bien.
Non, on en revient au problème des moyens qui ont été évoqués aujourd'hui. Donc je répète ce que j'ai dit. Il y a une obligation de fin et on se donnera les moyens. Et là, il y a un exemple historique qu'on ne doit pas oublier parce qu'il est important. C'est l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Quand Roosevelt décide de déclarer la guerre, il le fait quand même, mais de lancer la guerre en Europe, il y a une armée de 300 000 hommes. Il a en face de lui 6 millions d'hommes entraînés, musclés, etc. Et il dit, OK, je vais adapter les fins. Et il est parvenu, parce qu'il avait un objectif, je vais adapter les moyens, il avait un objectif de fin. Et le problème, vous avez raison, monsieur, le problème aujourd'hui, c'est que les moyens ne sont pas là. On a deux solutions. Roosevelt aurait pu dire, eh bien, je ne m'occupe pas de votre guerre. Il n'a pas fait ça.
Il a eu Pearl Harbor.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même eu Pearl Harbor entre-temps. Hein.
Je connais un tout petit peu l'histoire.
Je n'en doute pas une seconde.
À partir de 1900, je suis docteur. Bon, pas en médecine, attention.
Ah bon.
Pas en médecine. À partir de 1938, Roosevelt a compris que cette guerre serait la sienne. Et il va
augmenter... Mais il n'entre pas avant Pearl Harbor.
Si, bien sûr. Bien sûr, c'est août 41. À partir d'août 41, c'est le sommet de Terre-Neuve, c'est Germany First, c'est... La des premières déclarations de l'Alliance Atlantique, c'est « nous irons faire la guerre bon. ». Et à partir de ce moment-là, non, je reviens sur l'affaire des fins et des moyens. C'est bien la question que vous posez. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens et nous les aurons encore moins demain matin, ou plutôt le 6 novembre prochain, si Trump est élu. Donc, on a un problème d'adaptation des moyens. On a même une urgence dans l'adaptation des moyens, d'autant plus que, et ça n'est pas suffisamment dit, l'Europe, n'a pas d'autonomie opérationnelle. C'est-à-dire que si les Américains nous quittent le 6 novembre prochain, ils ne quitteront pas l'OTAN, mais ils peuvent quitter le territoire européen, eh bien, nous ne pouvons pas nous battre seuls. Et donc, on a là une vraie difficulté.
C'est terrible.
C'est terrible comme constat.
Est-ce qu'un jour, on sera capable de se passer des États-Unis ?
Si nous comprenons un jour que l'Europe doit trouver son autonomie, cette dépendance, elle a été organisée par les États-Unis depuis longtemps. Je vous rappelle les 3D de Madeleine Albright. Pas de découplage, pas de duplication, pas de discrimination. Et pourquoi ? Parce que les États-Unis veulent pouvoir continuer à dominer l'Europe et de manière à ce que le découplage ne soit pas possible de l'autre côté, alors que du leur, il l'est toujours, je vais créer des trous dans la raquette des Européens. Les Européens n'ont pas le droit d'avoir un état-major de force. Pour ça, nous n'avons pas d'état-major de force capable de commander des forces européennes. Nous n'avons pas de système de renseignement capable de nous informer correctement, je dis bien, si les moyens européens, américains s'en vont. Donc, il y a autre chose. Nous n'avons
jamais
pas...
pensé à s'émanciper des États-Unis
de... Il y a eu des tentatives.
Il me semble que Charles de Gaulle a essayé.
Oui.
Il me semble que certains l'ont fait. Mais que nous, Français, qui avons une pensée stratégique, parce que nous sommes, vous le savez, un pays encore avec des confettis d'empire, parce que nous sommes les seuls à avoir une arme atomique. Donc nous avons une pensée stratégique que d'autres n'ont pas. Ça fait longtemps que nous disons, moi je lis depuis 20 ans sur le plateau de télé, etc., mais je ne suis pas le seul évidemment, dire attention, un jour l'Amérique nous lâchera, parce que c'est écrit dans l'histoire. C'est-à-dire que la parenthèse qui a commencé en 49 va se terminer possiblement en 24, et si ce n'est pas en 24, ce sera un peu plus tard. Et que donc il faudra là que nous soyons capables de nous défendre, si c'est nécessaire. Donc, oui, monsieur, il y a un problème de moyens Ce problème-là, il faut le régler. Mais nous ne le réglerons pas si nous ne pensons pas, si nous ne pensons pas immédiatement à cette affaire-là.
Donc pour conclure, quand Emmanuel Macron dit « la France est crédible, forte et prête », ce soir, ce n'est pas le cas.
Non, ça n'est pas le cas. Alors, le problème, si vous voulez, le problème, c'est que, comme vous le savez, la France est un pays doté, avec une arme atomique.
Oui.
Le problème, c'est que nous n'avons pas de dissuasion conventionnelle. Là, il faut bien comprendre.
Alors, expliquez-nous dissuasion conventionnelle.
Bien, aujourd'hui, en gros, on a une armée que vous avez voulu, vous, les Français. Vous avez dit, il vous faut.
Mais
si vous êtes citoyen, vous êtes citoyen.
Ah, pardon.
Et vous
avez
dit, c'est ma faute. Vous savez, il y a pas, là, c'est pas l'armée qui veut l'armée.
C'est Jacques Chirac qui a fait ça.
Non, attendez, je continue. C'est pas l'armée qui veut l'armée, c'est la nation qui veut l'armée. Une France, une nation à l'armée dont le Parlement se dote. D'accord. Qu'a-t-on dit aux armées françaises? Désormais, vous serez capable de conduire des petites opérations dans le temps court, sur des espaces réduits. Eh bien, on est très très bon. On est les meilleurs en Europe et de loin. Mais on n'est pas du tout adapté à
la guerre longue durée.
Et donc, on a une dissuasion conventionnelle contre quelques barbus, enfin même beaucoup de barbus quelque part au Sahel, ça c'est sûr. Mais on n'est pas dissuasif conventionnellement. Face à la Russie. Mais le fait que j'ai dit pacte de Varsovie n'est pas totalement subi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est quand même dans une menace qui ressemble à celle de la guerre froide. Mais attention, pas la guerre froide d'Andropov, pas la guerre froide de Gorbi, et encore moins, et même pas celle de Khrouchtchev. On est dans la menace de la guerre froide de Staline. C'est-à-dire avec des chars qui potentiellement, on ne sait jamais, mais qui potentiellement peuvent continuer.
Or, on se regarde en chien de faïence.
Absolument. Et donc, il nous manque, si vous voulez, non, mais clairement, il manque à l'Europe, dans la gradation de la montée en puissance et de la dissuasion, il manque une force conventionnelle cohérente que nous n'avons pas.
Une armée digne de ce nom.
Oui, une armée
c'est
digne de ce nom.
C'est aussi simple que ça, si je parle comme un profane, cher général.
On a l'arme nucléaire, contrairement à d'autres.
Mais... Non, mais on a la dissuasion, comme l'explique le général, dissuasion intermédiaire, j'ai envie de dire.
Il faut quelque chose entre les deux.
C'est ça.
Il faut quelque chose entre les deux.
Monsieur... Je suis entièrement d'accord avec vous sur la nécessité de se doter d'une armée puissante. Je pense d'ailleurs que le réintégrer le commandement intégré de l'OTAN, comme l'a voulu Nicolas Sarkozy, était d'ailleurs sans doute une erreur. Mais on ne va pas le faire d'ici le 6 novembre. Il ne faut pas mentir aux Français. Et sans doute,
il faut commencer maintenant.
Monter en puissance, et sans doute monter en puissance pour d'autres conflits, et pas forcément sur ce conflit-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Très probablement le 6 novembre, d'ailleurs, que ce soit Biden ou Trump, puisqu'on voit que Biden commence à se retirer lui-même. Il va y avoir une négociation où Poutine va garder une partie du Donbass, très probablement la Crimée, et avec un traité de paix. Donc on va sortir de cette situation-là, et c'est peut-être ce qui est préférable pour éviter l'escalade. Donc à mon avis, c'est ça.
Mais là, on serait dans le scénario inverse de ce qu'a décrit Emmanuel Macron ce soir, c'est-à-dire que ce serait de la faiblesse.
Ce sera très probablement le cas.
Ce serait de la faiblesse.
Et par contre, on va le payer. Parce qu'Emmanuel Macron a dit notre vie changera. Oui, notre vie changera quoi qu'il arrive, parce que on a décidé d'intégrer l'Ukraine à l'Europe, ce qui sur le plan stratégique, géographique, peut paraître très très étonnant. On l'a fait sous le coup de l'émotion, et ça aura des conséquences économiques et sociales très importantes. Elle est dans un processus accéléré, et il y a déjà plus de droits de douane, et on voit le résultat avec nos agriculteurs.
On continue la discussion. Je vous rappelle qu'on est ensemble sans interruption comme chaque soir jusqu'à minuit 23h pile, un point sur l'essentiel de l'actualité en une minute avec Maureen Vidal, et on continue les discussions.
Interrogé sur la question de la laïcité, 78% des Français estiment qu'elle est en danger dans notre pays. Un avis, quelle que soit leur sensibilité politique. Dans le détail, 68% des sympathisants de la France insoumise l'estiment en danger. 68% aussi pour le Parti Socialiste, 79% pour les Républicains contre 86% et 89% pour les sympathisants Renaissance et du Rassemblement National. Le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, a ordonné la fermeture du lycée privé musulman Avicenne à Nice à la fin de l'année scolaire. Selon lui, l'établissement hors contrat faisait preuve de financement opaque et d'irrégularités financières manifestes. Les 99 élèves seront redirigés vers d'autres établissements. Le 26 février dernier, la ministre de l'Éducation nationale avait annoncé son intention de fermer le collège. Enfin, le syndicat Sudrail a annoncé avoir déposé un préavis de grève couvrant tout le mois de mai. Objectif, peser sur des négociations portant sur les fins de carrière. Une table ronde sur la fin de carrière doit avoir lieu le 10 avril. La direction est prévenue. Sans bouger significatif, les ponts du mois de mai seront perturbés, a indiqué le syndicat.
Emmanuel Macron, si vous nous rejoignez à 23h pile, merci beaucoup Montivier, rendez-vous dans 30 minutes. Donc si vous nous rejoignez en direct seulement maintenant, Emmanuel Macron qui s'est expliqué face aux Français ce soir, on l'a vécu sur CNews pour parler de l'Ukraine, de l'aide française à apporter à ce pays en guerre contre l'envahisseur russe depuis plus de deux ans. Résumé de ce qui a été dit pendant cette trentaine de minutes d'interview avec Augustin Donadieu et on poursuit les discussions en plateau.
Dès le début de son interview, le président de la République prévient.
Il y a une escalade de la part de la Russie. Et à cette escalade, nous devons dire que nous sommes prêts à répondre.
Y répondre, mais de quelle manière ? Emmanuel Macron a clarifié ses propos sur l'éventuel envoi de troupes au sol.
Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible.
Car le président de la République insiste, la guerre n'est qu'à 1500 km de la frontière française. La sécurité du pays pourrait être menacée.
Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait.
De quelle manière ?
Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas.
Une seule issue, que l'Ukraine ne sorte pas perdante de cette guerre qu'Emmanuel Macron qualifie d'existentielle face à la Russie qu'il ne considère pas comme un ennemi.
Mais à coup sûr, aujourd'hui, la Russie est un adversaire. Le régime du Kremlin est un adversaire. Mais je l'ai toujours dit, nous ne faisons pas la guerre à la Russie et au peuple russe. Et nous soutenons l'Ukraine, nous faisons tout pour qu'elle puisse mettre la Russie en échec. Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite.
Ce vendredi, Emmanuel Macron ira à la rencontre du chancelier allemand Olaf Scholz avec le premier ministre polonais Donald Tusk pour renforcer la coopération franco-allemande, mise à mal par les récents désaccords.
Peut-on créer l'union sacrée face à Poutine ? Est-il parvenu, Emmanuel Macron, à créer l'union sacrée ? Est-ce qu'il a amené les Français avec lui ce soir autour de sa stratégie ? Question qu'il faudrait justement poser aux gens qui nous regardent, Denis Deschamps.
Écoutez, moi je pense que comme disent si bien les Américains, c'est in progress.
Ouais.
C'est en cours. C'est en cours. En tout cas, ce qui est en cours, c'est que même sous Biden, le retrait américain est très clair. Hein. Là, c'est clair. Alors moi, je pense qu'il faut quand même noter plusieurs choses. D'abord, je vais rebondir sur ce que disait le général Desportes. Il est sorti d'une ambiguïté stratégique, d'un premier volet d'ambiguïté. Il y a une autre ambiguïté stratégique qui est justement dans l'art de la guerre, où là, il ne peut pas se dévoiler, et il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, parce qu'il garde ses coups en retrait. Mais la première ambiguïté stratégique dont il est sorti, c'est quand il a fait son annonce il y a trois semaines, et là, il est sorti de ça pour essayer de rabaisser l'émotion. En fait, l'émotion est toujours là. C'est clair qu'il y a même...
Vous êtes convaincu qu'il savait ce qu'il faisait à ce moment-là ?
Je ne sais pas, parce que parfois, comme disent certains observateurs très aguerris, disent parfois que notre président est parfois maladroit, voire très maladroit.
C'est pour ça que je pose la question.
Et que justement, sous le coup de réponse au tac au tac, comme ça, il est capable de nous lâcher des choses. Voilà, la spontanéité pour rester diplomate. Mmh. Donc ça, c'est le premier point d'ambiguïté stratégique. Maintenant, moi, je pense qu'il a essayé, dans son costume de chef de guerre, d'essayer d'instaurer un rapport de force, parce que je crois qu'il a été quelquefois humilié par Poutine, avec toutes les discussions qu'il a eues, des centaines d'heures, a-t-il dit. Il a été humilié. Donc
L'image de la table reste dans l'esprit de tout le monde, hein, pour ne parler que de cela.
Ouais. Donc il veut réinstaurer un rapport de force entre les 124 millions de Russes et les 480 millions d'Européens. Ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau de lecture, c'est les fameuses lignes rouges. En fait, il a fait tout son discours, la construction de son discours, pour arriver sur « moi, c'est ma ligne rouge ». Très bien. Mais en réalité, c'est ligne rouge contre ligne rouge, puisque Poutine, il a déjà sa ligne rouge. Maintenant, j'invite les Français à avoir soit un petit peu de mémoire, soit un petit peu de temps s'ils ont des insomnies, et d'aller voir sur un site internet qu'on ne citera pas, où on peut voir des vidéos, sur lequel il y a la fameuse conférence de Munich. Vous savez, c'est le Davos de la Défense, tous les ans, la conférence de Munich 2007, où Poutine dit clairement, il n'y a même pas besoin de sous-titres, clairement, l'OTAN s'approche de l'Ukraine, je déclenche la guerre. C'est ma ligne rouge, et il l'a dit plusieurs fois dans l'histoire. Donc vous voyez, ligne rouge contre ligne rouge. Et c'est intéressant parce que, en filigrane, notre président nous a sorti le principe de Schumpeter ce soir.
À savoir.
C'est pas impossible. C'est pas impossible. On est parti de rien, puis finalement, on a apporté notre aide, on a apporté de l'argent. Et vous voyez ce que je veux dire ? Il a construit son truc comme ça. Et en fait, Schumpeter, c'est quoi ? C'est ce qui est impossible. Ensuite, l'étape suivante, c'est
c'est dangereux et après c'est une évidence.
Ce soir, il dit aux Français, ce n'est pas impossible, mais évidemment qu'il faudrait énormément de conditions pour que nous arrivions à une telle
issue. Fait du chemin.
Mais il y a ces propos rapportés que chacun a pu lire dans l'édition du Monde hier soir. Propos rapportés donc du 21 février dernier, c'était en marge de la panthéonisation de Missak Manouchian. Emmanuel Macron, qui est avec des personnes qui ne sont pas nommées d'ailleurs dans cet article, en train de prendre un verre de whisky, nous dit-on, et il lâche cette phrase « De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa ». Éric Tegner voulait réagir, et puis le général Desportes, évidemment, donnera son avis.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, on ne note pas
assez qu'on doit comprendre
si le changement
d'Emmanuel Macron... Je rappelle juste, pardonnez-moi, et je vous rends tout de suite la parole, que cinq jours après la panthéonisation de Missak Manouchian, c'est là qu'il évoque l'envoi de troupes occidentales. Donc, en deux ans, on est bien passé de la volonté de ne pas humilier Poutine à la menace d'envoi de troupes.
Oui, mais parce qu'il s'est passé quelque chose il y a près d'un mois. Il y a près d'un mois, il y a une ville qui s'appelle Avdiivka, qui est une ville aujourd'hui importante sur le conflit ukrainien, qui est tombée. Moi, je m'étais rendu plusieurs fois, non seulement à Odessa, mais également à Donetsk, donc côté russe. Et donc, c'est à une vingtaine de kilomètres, Avdiivka. Et ça paraissait très compliqué pour les Russes de se dire on va réussir à faire tomber une ville qui était totalement bunkérisée, avec des parfois 15 ou 20 mètres de bunker sous le sol. C'était complètement pilonné, mais le fait que ça tombe, et que ça tombe de façon assez subite, hein, on s'y attendait assez peu, ça a fait peur justement à Emmanuel Macron et à ses partenaires européens que d'un coup, il y a un effondrement de l'armée ukrainienne. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs mois, l'armée russe a consolidé en fait un front de défense, une ligne de défense, une sorte de ligne Maginot qui effectivement, on l'a vu lors de la contre-offensive ukrainienne, a extrêmement bien résisté. Moi, je m'étais rendu encore une fois l'année dernière, je le voyais à quel point ils construisaient de nombreuses tranchées sur différentes zones. Et la ligne du côté ukrainien, elle n'est pas encore totalement consolidée aujourd'hui. Il manque justement quelques mois pour qu'ils soient prêts. Et le fait qu'Avdiivka tombe aujourd'hui, surtout à un moment où effectivement il y a des retards sur les livraisons d'armes, notamment sur les livraisons d'obus, parce que Emmanuel Macron le précisait, pour 10 obus russes envoyés, il y a un obus ukrainien qui est envoyé. Il y a la possibilité que les Russes reprennent Kherson, d'où ils s'étaient retirés, mais ce n'est pas pour autant que les Ukrainiens peuvent y être très tranquillement aujourd'hui, et donc à ce moment-là peuvent justement prendre Odessa. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque le président Macron dit « on ne peut pas permettre à l'Ukraine de perdre », est-ce que perdre, ça veut dire perdre Kiev, ou est-ce que c'est le jour où les Russes prendraient Odessa ? Aujourd'hui, on a le sentiment, parce qu'il parle par exemple de la Moldavie, que pour lui, la ligne rouge justement, c'est le fait que Odessa tombe. Et donc, il faut forcément voir ce qui s'est passé aux lumières de la chute d'Avdiivka. Ce qui rappelle, hein, pour terminer là-dessus juste, qu'on a passé des mois à dire qu'on pensait qu'on allait faire effondrer l'armée russe. Oui. Ça ne s'est absolument pas passé. Comme
à genoux, disait Bruno Le Maire. Donc,
heureusement, là, pour le coup, moi, ce qui me plaît ce soir, c'est qu'au moins, ça a le mérite d'avoir de la clarté, en fait, et de lancer un débat, en tout cas, sur des bases claires.
Thomas Bonnet, je viens vers vous dans une minute. Je voudrais juste une réaction du général. Ça veut dire quoi, ces propos ? S'ils sont avérés, hein, puisque ce sont des propos rapportés. Et d'ailleurs, Le Monde, dans cet article, titrait, à propos de Macron, c'est la colombe devenue faucon. C'est-à-dire que paradoxalement, en fait, le meilleur moyen d'éviter la guerre, c'est d'être dans cette surenchère.
Alors je crois d'abord qu'il est bon, parce que ça a été dit déjà deux ou trois fois sur ce plateau, qu'il est bon que Emmanuel Macron ait évolué. Il en serait resté à sa position d'il y a deux ans, on le critiquerait encore plus que pour avoir évolué. Et la stratégie, elle est adaptation par nature. Et quelque part, on le sait bien, le président Macron a été déniaisé parce qu'il a compris de Poutine, etc. Et c'est bien, on ne peut que se féliciter qu'il soit passé d'une attitude qui était dangereuse...
Il a compris que Poutine l'avait trompé personnellement, il a fallu un certain temps, mais le résultat est là, a salué Volodymyr Zelensky il y a quelques jours.
Exactement, mais il a compris, il a évolué. Bon, ça c'est bien. Alors, moi je crois qu'il y a eu, comme vous l'avez dit, il y a eu un moment de panique. Et aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne peut assurer que les Russes ne seront pas à Kiev au mois d'août et à Lviv au mois de septembre.
Est-ce qu'ils n'y seraient pas déjà s'ils en étaient capables ?
Mais s'ils en avaient été capables, ils y seraient. Et vous avez vu qu'ils n'en avaient pas été capables. Mais maintenant, ils le sont. Ils le sont. Ils peuvent l'être.
Qu'est-ce qui fait, alors que général, qu'est-ce qui fait qu'ils le soient aujourd'hui alors qu'ils ne l'étaient pas il y a deux ans ou un peu moins ?
Eh bien, parce que Poutine a su jouer sur ce qui fait la force de la Russie, c'est la profondeur stratégique et le temps. Et donc, il a été intelligent, parce que le départ de Kherson, ce n'est pas une débandade de la Russie, c'est une manœuvre rétrograde intelligente qui est de dire « je vais prendre un an » pour installer la ligne Sourvikine, je vais relancer l'industrie de guerre, ce qui a été fait parfaitement, et je vais repartir à l'attaque. Les Russes n'ont fait que des erreurs pendant un an. Ensuite, ils se sont arrêtés, ils ont réparé, ils ont changé et ils repartent. Donc voilà ce qui fait la différence. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un stratège au monde qui peut dire les Russes ne seront pas à Kiev au mois d'août. Je souhaite vivement le contraire. Mais évidemment, mais il y a le feu au lac. C'est ce qu'il faut bien comprendre.
Parce et donc, que c'est là, c'est la ligne rouge pour nous. C'est là que nous intervenons.
Non, je dis pas ça.
C'est... Non, moi, c'est une question. C'est une non, question. Est-ce que Kiev, c'est la ligne rouge, selon vous?
Mais pour qui, la ligne rouge?
Pour les Européens, pour Emmanuel Macron, pour l'OTAN?
Pour les Européens. Écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut tout faire aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. Mmh. Et c'est donc aujourd'hui, comme il y a le feu au lac, que, ben, il faut pas préparer. Et c'est intéressant de comprendre qu'il y a plusieurs temps dans cette affaire-là. Aujourd'hui, on n'en est pas, je prépare une contre-attaque, je vais reprendre la Crimée. Non, on n'en est pas là. Il nous faut interdire absolument à l'armée russe de percer. Et après, on verra ce qu'on fera. Quand le président Macron dit qu'il faudra se mettre sur les lignes, les frontières de 91, au fond, il n'en sait rien.
Et donc, le seul moyen aujourd'hui d'empêcher les forces russes de percer, c'est de les militariser, c'est d'envoyer un maximum de moyens, d'armes notamment.
Ah oui, mais pas beaucoup.
Ça passe que par cela.
Il n'y a pas 40 armes. Il faut envoyer des mines. La ligne Sourvikine, pourquoi elle tient? C'est 30 km avec des centaines de milliers de mines. Parce qu'il y a des dents de dragon. Il faut envoyer.
Les dents de dragon, c'est empêcher les véhicules de passer.
Voilà. Mmh. Et c'est ça. Et ça, c'est immédiat, si vous voulez. Et il ne faut pas penser aux avions, à la contraction. Non. Il faut fermer ce mur. De la même manière que les Russes ont fait la ligne Sourvikine, il faut fermer. Et après, on verra ce qu'on fera. Mais aujourd'hui, il y a une urgence. Après, reprendra-t-on la Crimée? Reprendra-t-on le Donbass? Personnellement, je pense qu'il est opérationnellement impossible de percer la ligne Sourovikine. Donc, le problème se posera devant. Mais je pense que c'est pas véritablement le sujet. Moi, je pense qu'il y a eu un mouvement de panique qui a été lié à ce qu'a dit Trump, quand même. Trump, tout d'un coup, a décrédibilisé totalement l'article 5 et l'OTAN. C'est quand même dur.
Ouais.
Nous, depuis De Gaulle, on sait bien que ça tient pas très bien, ce truc-là, mais la plupart...
L'article 5, c'est que tout le pays de l'OTAN qui est attaqué signifie que les autres membres le défendent.
Alors, nous, on a compris que c'était pas vrai depuis longtemps, c'est pour ça qu'on a les sous-marins prêts à tirer des missiles. Voilà. Mais les autres n'avaient pas compris. Donc, il y a eu ce choc, et le choc de Navalny, quand même, qui a créé un choc.
Il n'en a pas parlé ce soir.
Hein. Il a parlé des opposants qui seront...
Oui, mais il n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé.
Puis, il y a Divka qui dit, tiens, là, on croyait que ça allait tenir, et ça n'a pas tenu. Et on sait qu'aujourd'hui, les Russes avancent tous les jours. Ils avancent tous les jours, les Russes. Et ils sont dans une démarche qui est intéressante. D'ailleurs, dès qu'ils avancent, ils font une tranchée, ils bétonnent. Oui. C'est-à-dire qu'ils sécurisent et ils avancent petit à petit. Donc, ils ont appris, oui. Et donc, on voit qu'on est quand même dans une manœuvre dangereuse. Et je pense qu'il était bon que le président Macron... Alors, c'est pour ça que la question qui était posée sur votre écran, ou sur notre écran, c'était, a-t-il rassuré les Français?
Oui.
Est-ce que c'était son job? Non, moi, je crois...
Quand même.
Non, pas forcément. Son job, c'était de dire la vérité. De dire, vous êtes menacés, vous, même au fond du Pays Basque et au fond de la Bretagne, vous êtes menacés.
Mais vous pensez franchement que les gens qui ont écouté Emmanuel Macron ce soir au fond du Pays Basque, comme vous dites, ou peu importe où en France... ça y est, ce soir, après avoir entendu Emmanuel Macron, conscience du danger immédiat que constitue une éventuelle avancée russe.
Eh bien, je pense que la réponse, c'est Denis Deschamps qui l'a eu. C'est une progresse. Petit à petit, il y a eu quand même les affaires d'il y a 15 jours qui ont remis ces sujets sur la table. On s'est posé des questions. Il dit ça. Et je pense. Moi, je vais beaucoup en province. Mon métier m'amène à être tous les jours en province. Les gens, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a un microcosme parisien parce qu'on en parle. Mais oui, ils ne comprennent pas. Or, il y a quelque chose d'important qui se passe.
Oui, rapidement, je voudrais qu'on évoque aussi les différentes menaces, enfin la menace nucléaire de Vladimir Poutine et la réponse qu'a eu Emmanuel Macron ce
soir.
Juste
un mot a été évoqué, une ligne rouge. En fait, on a malheureusement une jurisprudence malheureuse sur les lignes rouges. Souvenez-vous d'Obama et la Syrie, 511 000 morts gazés par Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est encore là et Obama, il est rentré à la maison. Donc en fait, vous voyez, les lignes rouges, ça peut être très dangereux d'avancer d'une manière très orgueilleuse en disant « attention, c'est ma ligne rouge », parce qu'on peut aussi se retrouver humilié.
Il y a même l'inverse. Quand le président Biden dit au début du mois de février 2022 « quoi qu'il arrive, je n'enverrai pas de troupes », c'est le déclencheur de l'attaque russe. Donc l'ambiguïté stratégique, ça a du sens.
Oui, tout à fait. Confère Taïwan. Et les Américains.
Avant d'évoquer la menace nucléaire brandie régulièrement par Vladimir Poutine et la réponse du chef de l'État ce soir, je voudrais qu'on repasse par nos responsables politiques. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'intervention présidentielle ? Peut-être un commentaire aussi avec vous, Thomas Bonnet. À la veille des élections européennes, dit Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron reproduit le même schéma qu'à la présidentielle en instrumentalisant la peur de la guerre qu'il alimente volontairement. Il prend les Français pour des imbéciles qu'ils ne sont pas. Marine Tondelier pour les écolos. Macron n'a pas rassuré. En réalité, la France est isolé diplomatiquement. Notre effort doit porter sur l'Europe de la défense, l'aide active à la victoire de l'Ukraine, la saisie des avoirs russes et la fin effective des importations qui financent leur effort de guerre. Marion Maréchal, on a l'impression qu'Emmanuel Macron joue à la guerre comme au Playmobil. Bon, c'est un peu lapidaire, en effet. Et puis Manuel Bompard, pour finir, leader de la France insoumise, leader. Derrière Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Ce soir, Macron, il est... Non, parce qu'il y a un terme, c'est grand...
Coordinateur.
Parce qu'il sait pas... Ils vont pas comme tout le monde. Coordinateur de la France Insoumise. Ce soir, Macron confirme la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Il n'a pas pris conscience de l'irresponsabilité de ses déclarations qui ont profondément isolé la parole de la France, forcé nos homologues à lever toute ambiguïté stratégique. Il s'entête dans une posture va-t-en-guerre au mépris des risques d'escalade vers une guerre nucléaire généralisée. La France de la paix nous manque. Ah, encore un, Manuel Bompard. Ah, pitrerie ridicule, a-t-il ajouté. Ben merci, monsieur Bompard. Un commentaire là, sur ses réactions politiques. C'est vrai que on a fait une première série de déclarations tout à l'heure politiques, et je me pose la même question. En fait, personne n'a compris ce que voulait dire le chef de l'État ce soir. En tout cas, bon, ce sont des oppositions. Hein,
Est-ce que vous avez vu des tweets de la majorité pour... saluer l'exercice.
J'ai pas vu, non.
Il n'y en a pas. Donc, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de réaction. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a une forte opposition et assez large de la part des partis de gauche jusqu'à la droite sur la posture diplomatique du chef de l'État. En revanche, l'argument qui consiste à dire qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne, voire électorale, d'agiter l'Ukraine, un sujet qu'on aurait oublié et qu'on l'agite en vue des élections européennes. Alors,
il y avait un peu une entrée en campagne aussi ce soir pour Emmanuel Macron.
Que c'est bénéfique pour le camp d'Emmanuel Macron, que les propos de Gabriel Attal sur les députés du Rassemblement National vont dans ce sens, que le débat organisé et le vote à l'Assemblée nationale vont dans ce sens, mais ce n'est pas une manœuvre politicienne qui a fait que la contre-offensive ukrainienne est moins efficace que prévu. C'est pas à des fins électorales que des attaques cyber ont été menées contre la France. Il y a donc une réalité aussi du terrain auquel on ne peut pas échapper, même si, en effet, le président de la République profite de la situation pour avoir un aspect politique.
Nous, on entre en campagne électorale et Poutine a terminé la sienne et demain, c'est le vote pendant 3 jours.
Ça a d'ailleurs commencé dans l'Extrême-Orient russe.
Exactement. Alors, un petit mot et je voudrais qu'on évoque donc la question nucléaire. Alors, Alexandre Karima, rapidement, les amis, s'il vous plaît.
Il y avait quand même un objectif pédagogique aussi, pour rassurer les Français, parce que je crois qu'effectivement, ses premiers propos avaient une consonance électorale et était trop emphatique. Il s'est laissé emporter. On va envoyer les troupes. Donc, si vous voulez, la stratégie qu'il avait lui-même posée lui a échappé. Et donc, il a un électorat qui aime plutôt le statu quo, qui a besoin d'être rassuré. Et ils sont rassurés par un chef des armées, effectivement, qui est posé, qui est aux commandes, mais pas forcément par un chef des armées qui les entraîne dans une guerre. Donc, il y avait aussi l'idée de dire, voilà, face à la menace russe, c'est moi qui vous protège, mais je le fais de manière carrée, j'irai pas trop loin, j'ai pas l'intention de déclencher la troisième guerre mondiale demain. Je crois que c'était aussi le but de l'exercice de ce soir.
Karima
et de ce point de vue, c'est plutôt
rapidement, comme Alexandre Devecchio, tout pareil, ce serait parfait, les amis.
Non, mais c'est l'exercice, j'allais dire, d'équilibriste d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, c'est de se positionner comme le leader, si vous voulez, européen, qui force ses alliés aussi à dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait, de trouver une stratégie commune. Donc, il veut être le leader là-dessus. Et en même temps, c'est de rassurer sa population et de montrer que c'est lui l'homme qui est en contrôle. C'est lui qui peut proposer des choses. C'est lui qui est garant de la stabilité, de la crédibilité. Et c'est une façon aussi pour Emmanuel Macron, dans un contexte d'élection européenne, oui, de faire de la politique, j'allais dire, nationale, la politique française.
Et en même temps, Vladimir Poutine fait aussi de la politique intérieure. On est à la veille du week-end d'élection en Russie.
Et de présenter les oppositions l'opposition finalement comme comme étant des faibles. Et même, il y a une possibilité un peu d'humilier le RN là-dessus en lui disant, ben, regardez vos positions passées par rapport à la Russie. Finalement, vous n'avez pas grand-chose à offrir. Vous avez plutôt justement cet aspect de faiblesse. Et on voit que les oppositions essaient d'avoir leur voix au chapitre. Mais au final, ben, c'est Emmanuel Macron en ce moment qui mène un peu la barque et qui peut contrôler un peu cet agenda aussi médiatique.
Éric, rapidement.
Juste qu'on dit.
On évoque la menace nucléaire.
Rassure les Français, à aucun moment donné, on pense, si on dit, comme j'ai dit ce soir, qu'il a été plutôt bon, qu'il va convaincre 90% des Français. Il ne va pas convaincre les électeurs du Rassemblement national.
Mais les prochains sondages sont très intéressants.
Il doit convaincre à nouveau sa base, en fait, aujourd'hui, qui justement était déstabilisée. Et je voulais juste compléter un élément qui était donné tout à l'heure. La vérité aujourd'hui, qu'on pense que Minsk ou autre, ou que, effectivement, on n'a pas été malin, que ça a aussi enclenché aussi ce conflit. Aujourd'hui, ça fait
deux ans. Ce qui n'est pas totalement faux.
Oui, c'est pas totalement faux. Mais dans les faits, maintenant, ça fait 2 ans que la France, elle s'est engagée. C'est un fait. Et qu'effectivement, si en septembre prochain, Kiev tombe, oui, la France et l'Europe seront humiliées. Ça, c'est une réalité. Et si demain, en fait, on est humilié à la face du monde, ça va évidemment nous affaiblir. Ça, il faut complètement en avoir conscience. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à nouveau avoir un débat sur qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Parce que demain, il faudra un jour négocier. Donc si on commence justement à essayer d'être convaincu que les 6 millions de personnes aujourd'hui qui sont par exemple dans le Donbass depuis 2014, qui globalement sont devenues plutôt majoritairement pro-russes, eh bien on va leur dire de partir, etc. Non, c'est abscon comme vision. Donc en ayant conscience qu'effectivement ils peuvent arriver à Kiev, que ça peut être pire, qu'on peut être affaibli, eh bien il faudra à un moment donné négocier. Et je pense que ce qu'il a voulu faire ce soir, je l'espère en tout cas, c'est pouvoir justement rétablir un rapport de force. Mais la problématique, on l'a dit tout à l'heure, c'est de toute façon les Allemands et les Polonais, ils se calent d'abord sur les Américains.
On le sait également, depuis 2 ans maintenant, la menace nucléaire est régulièrement brandie. Il y a une surenchère quand même depuis les fameux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes, où cette menace a été de nouveau brandie et de façon un peu plus solennelle, un petit peu plus sérieuse, va-t-on dire. Écoutez ce qu'en a dit justement le chef de l'État tout à l'heure.
Nous devons nous sentir d'abord particulièrement protégés. Parce que nous sommes justement cette puissance dotée.
Sauf qu'il mentionne beaucoup la France, plus la France que d'autres pays.
Et que c'est le sens même du choix qui a été fait par le général de Gaulle dès après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous sommes prêts, nous avons une doctrine qui est établie. Et en matière de nucléaire, il faut peu de mots. Et le nucléaire n'est pas un instrument de déstabilisation ou de menace. Notre capacité nucléaire donne d'abord une sécurité aux Françaises et aux Français, comme peu de pays dans le monde. Ça nous donne une responsabilité, celle d'être une puissance dotée de cette arme, et donc de ne jamais être dans l'escalade, ni verbale, ni évidemment de fait.
Mais pourtant,
commentaire, mon général, alors que Vladimir Poutine a récemment dit que la Russie serait prête à recourir aux armes nucléaires si sa souveraineté était menacée. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on considère que la souveraineté de la Russie est menacée?
Il n'y en a qu'un qui peut vous le dire, c'est Poutine. Mais
non, c'est clair.
Non, mais c'est important, c'est les lignes rouges de Poutine.
Bien sûr, non, mais j'aime votre façon de me recadrer.
Non, mais c'est Poutine, il y en a qu'un.
Ça me donne envie de m'engager, tout ça.
Non, mais il y en a qu'un qui décide, c'est évidemment lui. Alors, moi, mon commentaire, c'est simple, c'est que depuis le début, j'ai dû sur un certain nombre de plateaux, c'est une guerre qui est menée sous menace nucléaire. Et qu'on ne peut jamais l'oublier. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il n'y a pas eu d'armes nucléaires, nous, Français, nous serions déjà probablement en train de nous battre. Et ce qui nous protège finalement, c'est bien que l'Amérique ait des armes nucléaires et que nous ayons des armes nucléaires. Ensuite, que Poutine puisse utiliser l'arme nucléaire, moi j'en suis persuadé.
Ah oui ?
Si Hitler avait eu l'arme nucléaire à Berlin au mois d'avril, il l'aurait utilisée, bien sûr. Il était mort au mois d'avril, mais au mois de février, il l'aurait utilisée.
C'était évoqué pour Kherson d'ailleurs.
Bien sûr.
Les Américains
fois.
Ont dit que les
plusieurs
apparemment,
fois.
C'était évoqué. Oui.
C'est dans la doctrine russe.
C'est pas un fantasme. Il en est capable.
Il en est capable, mais bien sûr.
Et vous avez... Et seul lui sait à quel moment la ligne rouge est franchie contre lui.
La décision, c'est lui.
Alors, il y a pas. Ça peut faire peur aux gens qui l'en regardent.
Attendez, en France, c'est la même chose. Qui décide? C'est le président de la République.
Oui, mais on le sent peut-être un petit peu moins va-t-en-guerre, un petit peu moins tyrannique que Vladimir Poutine, quand même, Emmanuel Macron, n'est-ce pas?
Non, mais vous avez raison. Mais c'est pour ça que. Alors, on dit aussi que l'arme nucléaire, on a toujours dit ça, rendait sage. Parce que. Ce que je veux dire, c'est que quand je tire nucléaire, j'ouvre une boîte de Pandore, et il y a de bonnes chances que moi-même je sois détruit par la propre arme que je vais balancer sur New York ou sur Paris. Mais on est dans... pourquoi est-ce que les choses sont dites? Et pourquoi est-ce que le président Macron le rappelle, il a raison de le rappeler? Il y avait un reportage très important, très intéressant sur les sous-marins aujourd'hui, qui est très intéressant. On rappelle à Poutine qu'on existe, que nous, à tout moment, on peut détruire Moscou et Saint-Pétersbourg. Et c'est important de le dire. Le problème aujourd'hui...
On est un petit peu moins doté tout de même, hein. On va le revoir à l'écran, on a cette petite infographie pour rappeler la force de frappe française par rapport à la force de frappe russe.
Ça ne compte pas.
Vous le savez, mais c'est pour nos téléspectateurs.
Je le sais, mais on a toujours dit, nous, ça s'appelle la suffisance nucléaire. À partir du moment où nous, on peut raser totalement Moscou et Saint-Pétersbourg...
Finalement, il suffit d'avoir une ogive, en fait, pour être dissuasif.
Non, il en faut plus que ça. Avec 300, parce que avec 300, vous en avez. Mais... voilà. Mais alors, le problème aujourd'hui, parce qu'il y a un problème, c'est que notre édifice était totalement crédible pendant la guerre froide parce que on avait justement une force conventionnelle qui permettait, si vous voulez, de pas nous amener
ce que nous n'avons plus.
Et donc, c'est pour ça que cette dissuasion conventionnelle, préalable à la dissuasion nucléaire, doit être rétablie et aujourd'hui elle ne l'est pas.
J'ai l'impression, en vous entendant, que la priorité des priorités pour nous, Français et Européens, c'est de faire pression le plus vite possible pour une vraie défense européenne. C'est ça qui est existentiel,
absolument.
En fait. C'est ça le plus important ce soir.
Absolument. Alors, avant de parler de défense européenne, je dirais, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais une capacité de nous défendre nous-mêmes. Et là, je crois qu'on avance vers là. Il y a eu des progrès qui ont été faits, qui sont très insuffisants, mais nous devons être capables de nous défendre si les Américains nous lâchent, ce qui est presque probable.
Ça prend combien de temps ? Mais là encore, c'est peut-être une question un peu stupide. Combien de temps ça prend pour être autosuffisant militairement, dépendre des États-Unis, être une armée conventionnelle digne de ce nom, comme il y a une cinquantaine, soixantaine
d'années ? Il y a deux problèmes. Il y a un problème de masse et un problème de cohérence. La masse, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire que la masse
des hommes.
Non, des chars, de l'artillerie, etc. Cette masse-là, nous ne l'avons pas. C'est-à-dire, c'était bien la masse américaine plus la masse européenne qui compensait la masse adverse. Donc, il faudrait, quoi qu'il arrive, augmenter très largement nos parcs, nos flottes, etc. Il y a un problème de masse, donc production d'armement, etc. Et accroissement aussi de la population militaire. Et donc, la question du service national se pose sur cette affaire-là, parce que l'armée professionnelle n'est pas capable d'apporter la masse.
Vous êtes favorable, vous ?
Bien sûr.
Un retour du service.
Aujourd'hui, je suis favorable. Oui, je suis favorable, bien sûr. Il y a ça. Et puis, il y a un problème de cohérence. On a des trous dans la raquette, des trous qui ont été organisés sciemment par les Américains. Eh bien, ces trous-là, il faut les boucher. Et ça prend du temps. Mais plus on commence, plus on prend de temps à commencer, ben plus tard, ça se mettra en place. Mais il y a vraiment une prise de conscience actuellement en Europe, et c'est important.
Denis Deschamps, un petit mot, et puis on fera une pause pour le JT juste après.
Lorsque le président Macron a été élu, il a été rendre visite à Angela Merkel immédiatement. Et en réalité, le président Macron a tout de suite annoncé qu'il nous faut une défense européenne. Et la réponse de Angela Merkel était juste, entre guillemets, scandaleuse. C'est « Mais non, moi j'ai déjà mon armée, c'est l'OTAN ». Et Donald Tusk qui est un peu sur cette ligne-là, d'ailleurs, en Pologne. Oui. Donc, en réalité, on a encore pris beaucoup plus de retard. Depuis, Scholz a annoncé, outre les augmentations de budget colossaux, 100 milliards et tout ça, il a dit « L'Allemagne deviendra très vite la première armée européenne ». Ça pose question.
Éric Tegner, on va prendre encore quelques secondes avant le JT pour...
Moi, je note que le président Macron a parlé, par exemple, du régime du Kremlin et non du régime de Poutine. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, on se met pas assez à la place de Vladimir Poutine. On pense qu'il est là à obliger sa population d'aller se battre. La vérité, c'est que Vladimir Poutine, d'une certaine façon, c'est un centriste en Russie. Il y a énormément de Russes qui considèrent qu'en 2014, il a trahi parce qu'il a enlevé ses troupes de Mariupol, qu'il aurait dû aller bien plus loin. Moi, j'ai rencontré en août 2022 en Crimée des cadres de l'administration présidentielle. Donc, c'est vraiment ceux qui sont à ses ordres, notamment qui travaillaient sur la question de l'organisation des référendums, etc. Et qui me disaient qu'en fait, finalement, il aurait dû plutôt envoyer justement une bombe nucléaire sur Kiev, que de toute façon, les Occidentaux n'auraient rien fait et que depuis le début, Vladimir Poutine est plutôt trop modéré. Il se fait très critiquer, y compris dans son camp. Donc quand je parle du régime, quand on parle du régime du Kremlin, ça ne dépend pas de Vladimir Poutine. Donc lui, comme tous les autres, ça a beau être un autocrate, il est obligé justement d'écouter sa population. Donc aujourd'hui, en fait, dans les
faits... Il en écouterait certains, on aurait été vitrifié depuis un moment déjà.
Je vais vous dire, il est critiqué par une chose, qu'il a une ambiguïté quand on parlait de ses propres... Général Desportes parlait de ses lignes rouges. La vérité, c'est que les quatre oblasts du Donbass aujourd'hui sont intégrés dans la Fédération de Russie et pour autant...
Il y a eu ce fameux référendum.
Ils n'ont pas la même protection que s'il y avait des troupes ukrainiennes qui rentraient justement dans la Russie originelle. Donc de facto, de toute façon, il a adapté aussi sa politique de dissuasion et c'est la problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas véritablement en fait dans quel cas Vladimir Poutine pourrait utiliser aujourd'hui l'arme nucléaire, dans la mesure où, en fait, il a dit d'un coup, bah, même Kherson aujourd'hui, où les Ukrainiens y sont, Kherson théoriquement fait partie de la Fédération de Russie, selon Vladimir Poutine.
On continue évidemment dans une petite minute, le temps à 23h30 de saluer de nouveau Maureen Vidal pour l'essentiel de l'actualité. Maureen.
Quatre mois après la mort du jeune Thomas à Crépol, 3 des 11 suspects interpellés lundi ont été mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée et placés en détention provisoire. 6 d'entre eux ont été remis en liberté et 2 autres sont toujours en garde à vue. Plus 541% en 2023, l'immigration illégale a explosé dans l'Union européenne. Jamais un tel chiffre n'avait été enregistré depuis 2016. Selon Frontex, la route de l'Afrique de l'Ouest est devenue la principale porte d'entrée vers le continent européen. Enfin, Michel Sardou annonce se retirer de la scène médiatique. Cette fois, je suis à la retraite. Ce sont les mots du chanteur dans une interview accordée aux Parisiens. Une retraite prévue pour le 30 mars, date de fin de sa tournée d'adieu. D'ici là, l'interprète de La Maladie d'amour a encore des concerts à Paris, à Brest ou encore à Clermont-Ferrand.
Je crois qu'il faut qu'on passe en édition spéciale Michel Sardou, mon général. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, il est formidable. Moi,
bien sûr qu'il est formidable. Vous allez y aller au concert? Ça va vous détendre un petit peu dans ces temps troubles. Bon, blague à part.
Un toujours peu de musique, bien sûr.
Bien sûr, ça adoucit les mœurs, comme on dit. Le général Desportes, vous l'avez remarqué, toujours avec nous, Denis Deschamps, Alexandre Devecchio, Éric Tegner, Karim Abric, Thomas Bonnet. Notre dernière partie, toujours consacrée, évidemment, à cette prise de parole présidentielle très attendue pour clarifier les positions françaises. On en parle depuis près d'une heure maintenant. Nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposeront. Nouvel extrait d'Emmanuel Macron.
Nous sommes dans un temps, et c'est celui que j'assume, qui consiste à dire si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts, et nous serons prêts.
Et pour être prêts.
Et nous serons prêts. Et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais.
Raison pour laquelle, vous avez dit début janvier, la France est en économie de guerre.
Et viendra, je l'espère, le plus tôt possible, le moment où nous aurons à reparler avec le président de la Fédération de Russie, quel qu'il soit, au moment où cela s'imposera.
Général, précisément, qu'est-ce qu'on sait, au jour où nous parlons, de la situation militaire, de l'équilibre des forces sur le terrain entre la Russie et l'Ukraine ?
Alors, ce qu'on sait, c'est que la dynamique est du côté russe et que les Ukrainiens ont beaucoup de mal à arrêter, et on l'a dit, les lignes de... Ils auraient dû passer en défensive depuis longtemps. Zelensky était prisonnier de son propre personnage qui s'est créé, qui est le « j'attaque à tout prix ». Et c'est pour ça que Zaloujny est parti, d'ailleurs. Parce que Zaloujny avait bien compris que cette affaire-là ne fonctionnait pas. Et donc, ils ont compris que la contre-attaque, c'était au mieux pour 2025 et encore. Et que donc, il fallait absolument passer en défensive. Donc le rapport des forces, je ne le connais pas, mais le rapport des obus, on le connaît, c'est 1 à 10. Et globalement, ce qu'on sait, c'est que les Russes poussent à peu près partout, qu'ils ont des réserves de l'ordre du corps d'armée prêt à être engagés s'il y a une percée, alors que de l'autre côté, s'il y a une percée russe, les Ukrainiens n'ont aucune troupe pour aller casser une percée qui serait faite. Et bon, et ce sera...
L'urgence, c'est l'envoi d'armes, de moyens.
Ah, ils font des armes,
c'est bientôt des hommes. Parce que l'Ukraine n'arrive plus à lever des hommes, alors que la Russie a encore installé...
Des hommes d'où ?
Il y a une chose.
Quels hommes ?
Bah les
Occidentaux.
Non, les Ukrainiens.
Ah, voilà, parce que là, sinon, j'ai pas compris.
Il y a un détail qui n'en est pas...
Est-ce qu'il reste ? Il reste des jeunes hommes.
Oui, il y a un détail qui n'en est pas vain, c'est que les jeunes hommes n'ont pas le droit de se battre. Là, vous m'arrêtez si je me...
Alors, quelle est la règle ?
La circonscription, c'est à partir d'une trentaine d'années, je crois. C'est l'inverse.
C'est moins que ça, mais vous avez raison.
Donc vous avez toute la population ukrainienne masculine, seulement masculine d'ailleurs ?
Non, les femmes. Enfin, il y a beaucoup de femmes sur le front aussi. Alors,
donc à partir de ceux qui, on va dire, pour être un tout petit peu caricatural, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, n'ont pas encore été appelés sur le front.
Exactement. Il y a eu le choix de préserver ceux qui vont monter. Et là,
c'est terrible.
Non, mais c'est terrible. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'Ukraine mobilise. Il faut que l'Ukraine mobilise parce qu'il n'y a pas suffisamment de troupes. Et si vous voulez, et nous, si on veut, s'ils le font, c'est un signe vis-à-vis de nous. Mais s'ils ne le font pas, on peut se poser la question, y croient-ils encore vraiment ?
C'est en danger.
Comment ?
Ils se mettent en danger.
Ils se mettent en danger, et nous aussi, parce qu'on ne prête pas à une entreprise qui perd ou qui ne prend pas les moyens. Et donc je pense qu'il faut le faire.
Un dernier extrait du chef de l'État avant de poursuivre les discussions sur les moyens, justement, et les livraisons d'armes que la France et l'Europe, d'une manière générale, s'engagent à fournir aux Ukrainiens.
Nous avons, sur plusieurs segments qui étaient essentiels pour les Ukrainiens, fait le travail. Les canons César, qui sont déterminants pour la défense de l'Ukraine, nous avons multiplié leur production. Et là où nous avons livré quelques dizaines depuis le début du conflit, cette année, parce que nous avons multiplié les lignes, multiplié les cadences, nous allons produire près de 75 canons César. Ils iront tous sur le front ukrainien. C'est plus, beaucoup plus qu'on en a livré depuis le début. Nous avons multiplié par plus de 3 notre production des catégories d'obus et de missiles qui sont pertinents pour les Ukrainiens. À peu près au moment où je vous parle, quand la Russie tire 10 obus, on lui répond avec 1. Et donc vous voyez que ça met la situation sur le front en grande fragilité.
Et le jour où l'Ukraine répondra à 10 obus par 10 obus, peut-être que l'Ukraine inversera la tendance. Mais c'est pour ça que cette urgence de livraison d'armes, elle est là encore centrale dans ce conflit. Alors je vous vois faire une moue dubitative, on va laisser donner des champs et puis Eric Tegner répondra.
Si pour l'instant, on n'est pas dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, justement, c'est ce déséquilibre, cette asymétrie qui fait que Poutine pourrait gagner. Hein. Moi, je rejoins le général. Je pense que si les Américains s'en vont définitivement, et encore, vous avez vu Trump maintenant, c'est catégorique, hein, il l'a annoncé, je pense que Kiev peut tomber avant la fin de l'année. Voilà. Donc en fait, ils ont besoin des Européens. Je pense que Macron l'a très bien compris. Maintenant, il faut créer une coalition. Alors au niveau des obus, là, vous avez vu maintenant. Là, alors ça court dans les chancelleries depuis plusieurs semaines. Maintenant, c'est ça passe à la télévision. Ils sont en train d'essayer de prendre contact avec beaucoup de pays dans le monde pour acheter des obus, parce qu'en fait, on achète un stock là pour le coup, parce qu'on n'est pas capable d'en fabriquer suffisamment. Ce que disait le général Desportes tout à l'heure, c'est très intéressant, notamment avec Staline et ces chars avec Leningrad, vous vous souvenez, hein, où c'est organisé le repli stratégique pour se réorganiser au niveau industriel. Eh bien, Poutine a fait la même chose. Là, il est capable de produire largement 8000 obus par jour. Nous, la France, on a promis à Zelensky 8000 obus par an. Ça fait une journée d'envoi, vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la symétrie. Donc là, c'est pour ça que maintenant, on va les appeler probablement les Indiens, parce qu'ils sont non alignés, peut-être les Brésiliens, pour dire « qu'est-ce que vous avez dans vos stocks ?» et « envoyez-nous tout ça ». Mais ce ne sera juste qu'un pansement. Ça va être quoi ? Ça va être une semaine, deux, trois semaines d'obus. Parce que les Indiens ne s'amusent pas avec des obus tous les matins, donc en fait, ils ont leur stock. Mais alors, il y a le Moyen-Orient aussi qui a des obus. Je ne sais pas où ils en sont. On l'apprendra de toute façon. Mais il y a le Moyen-Orient.
On apprendra forcément à qui on achète.
Je pense.
Nécessairement, pourquoi ?
Le président Macron a dit qu'il y a des pays qui vont donner, mais qui n'ont pas tellement envie.
Oui, voilà, qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont ces armements. Ouais. Pourquoi vous avez douté tout à l'heure ? Enfin, vous avez montré cette petite moue que les téléspectateurs n'ont pas vue, mais qui disait non, c'est pas forcément un rapport de 10 à 10 qui fera la différence.
Non, mais je pense que le jour où nous, on va augmenter justement la puissance de tir des Ukrainiens, les Russes vont augmenter la leur.
Ah oui. En fait, ils ont les moyens ?
Dans les faits, ils n'ont pas encore. Ils ont lancé une véritable économie. Mais ils vont être de mieux en mieux. Ils ont encore énormément de réserves. Pour l'instant, on le voit sur la mobilisation. On s'attendait à ce qu'ils mobilisent beaucoup plus. Il n'en a pas vraiment besoin. Il y a encore le cas de la Biélorussie qui est au nord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même encore sur une logique de se dire, après, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, qu'au moment d'une potentielle prise d'Odessa, demande une principale. Dans la vérité, avec Odessa, selon moi, il atteint quand même ses objectifs de guerre, c'est-à-dire qu'il se retrouve avec une Ukraine qui, en fait, n'aura plus aucune valeur, parce que d'un point de vue des terres agricoles, c'est quand même le sud de l'Ukraine.
Et puis Odessa, c'est le dernier accès à la mer. Hein.
Voilà, ce qui compte, c'est le contrôle de la mer Noire. Donc là, il se la partagera avec la Moldavie et avec les Turcs. Là, les objectifs. Et donc, c'est pour ça que nous, on doit absolument se dire, voilà, en fait, qu'est-ce qu'on est prêt à céder, parce qu'il faudra céder des choses, parce qu'en attendant, effectivement, c'est les jeunes Ukrainiens qui meurent sur le front.
Général, un mot là-dessus. Puis je voudrais qu'on parle aussi de cette élection qui démarre demain en Russie. Et des enjeux.
Mon point, c'est qu'il faut de l'armement, mais il faut surtout une planification de l'envoi d'armement. Moi, je ne voudrais pas être à la place des généraux ukrainiens. Ils ne savent pas l'armement dont ils disposeront demain.
Aucun moyen d'anticiper.
Comment voulez-vous construire une stratégie opérationnelle sans savoir de quoi vous allez disposer ? Et donc, c'est tout. Et alors, il y a toute une quincaillerie qui arrive, qui n'est pas forcément interopérable. Comme ça, on vous dit, débrouillez-vous. C'est très compliqué. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une planification commune entre l'Ukraine et l'Europe pour qu'on ait une arrivée d'armement qui corresponde à une stratégie. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas été fait, alors que c'est extrêmement important.
Cet entretien, donc, pour quelques minutes, je voudrais qu'on parle aussi du contexte russe, puisque puisqu'on est à la veille ce soir de l'élection russe avec un Vladimir Poutine, pas la peine de vous le rappeler, assuré non pas d'être élu, parce que ce serait pas le bon terme, mais ce serait faire le jeu du Kremlin de parler d'élection, mais plutôt de reconduction. C'est important d'utiliser les bons termes, Thomas Bonnet. Il n'y a pas de démocratie en Russie. Peut-être qu'on peut prendre aussi quelques secondes pour le rappeler à nos téléspectateurs.
Oui, bah, le scrutin démarre en fait depuis quelques heures dans l'extrême-orient de la Russie, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de fuseaux horaires sur ce pays. Oui, les opposants à Vladimir Poutine, ou ce qui pouvait s'apparenter à des opposants, ont été pour le moins écartés.
Dernier
exemple en date, c'est évidemment Alexei Navalny, qui n'est pas non plus, et c'est vrai que parfois on a une image un peu déformée, n'est pas non plus un opposant politique très connu, en tout cas très connu. Il l'est, mais je veux dire qu'il y a d'autres oppositions en Russie, et tout à l'heure vous en parliez, c'est qu'il y a aussi une opposition très à droite de Vladimir Poutine, mais qui ne l'inquiétera évidemment pas dans le cadre
Navalny
de ce scrutin
nationaliste.
Navalny était par exemple un nationaliste.
Les dictatures ont quand même un avantage sur les démocraties, c'est que les leaders peuvent inscrire leurs actions, leurs forfaitures sur une longue durée. Je notais aujourd'hui que 116 000 personnes ont été jugées cette année en Russie pour contestation politique. C'est ça aussi la réalité russe.
Alors, faut quand même dire une chose, c'est que si demain la France rentrait dans une logique de guerre, on n'aurait plus le même style de démocratie qu'aujourd'hui. Ça, il faut quand même en avoir conscience. C'est-à-dire quand un pays rentre en guerre, eh bien, à un moment donné, il y a déjà un phénomène où tout le monde...
Enfin, je ne suis pas sûr qu'on serait sur le modèle russe non plus.
Et les lois, elles changent, vous savez, parce que les objectifs...
Clémenceau, l'exemple de Clémenceau est tout à fait intéressant.
À savoir.
Au moment les plus cruciaux, en mars 18, il mate totalement les
oppositions
et il en met une partie en prison. Il dit « je fais la guerre, ne m'emmerdez pas ».
Est-ce qu'on peut comparer Clémenceau de 18 au Poutine de 24?
Non, mais ce que je veux dire, je réponds juste, je rebondis. Oui, quand on rentre en guerre, alors on rentre dans un autre moment.
Revanche, pareil, je trouve ça assez délicat de se dire qu'à la fois pour Vladimir Poutine, c'est une simple reconduction, mais de souligner le fait que ça fait des mois qu'il travaille quand même énormément avec son administration présidentielle sur cette élection. S'il devait se contenter de bidouiller l'élection, ça serait beaucoup plus simple pour lui. Dans les faits, il a besoin... Les Russes savent qu'il va être reconduit, mais il a besoin qu'il y ait un maximum de gens qui aillent se mobiliser. Oui, le moral dans le cadre d'une guerre, il est fondamental. Il faut que les familles aussi puissent continuer à soutenir. Il est obligé de prendre ça en compte, même dans une dictature aujourd'hui. Il y a besoin.
Et d'ailleurs, il appelle les gens à aller voter, quand bien même il sait que tout est joué d'avance, qu'il sera réélu pour la sixième fois, je crois.
Ils vont savoir que les entreprises qui ne se mobilisent pas, qui ne poussent pas leurs employés à aller voter, vont pouvoir être sanctionnées, etc. Mais bon, ils savent quand même que c'est quelque chose et ils sauront entendre les signaux. Parce qu'ils ont beau pousser, ils auront, eux, les véritables chiffres de la mobilisation. Et forcément, ça leur enverra quand même un message.
Il a besoin, Denis Deschamps, de donner cette impression de plébiscite.
Oui, alors, il ne faut pas oublier l'âme russe. L'âme russe, c'est important. C'est qu'ils ont besoin, en dehors d'une guerre ou en dehors de Poutine, ils ont besoin d'un homme fort à la tête de l'État. Ça, c'est dans leur ADN. Donc ça, c'est primordial pour eux. Alors que d'autres pays ne sont pas du tout pareils. Ce ne sont pas des latins, les Russes. Donc ils ont besoin d'un homme fort. En même temps, il faut le tenir, le pays. 11 fuseaux horaires, je crois, vous disiez, Thomas, tout à l'heure. Il faut le tenir. C'est comme la Chine.
12 même.
Ouais. Donc vous voyez que c'est quand même très compliqué. En plus, c'est quand même un assemblage de plein de mosaïques. Donc c'est assez important d'avoir un homme fort. Maintenant, Poutine est là depuis 2000. Il va concourir jusqu'en 2030. Puis après, sait-on jamais. Quoique son camarade turc commence à montrer des signes de fatigue. On a vu ça cette semaine, ou peut-être que ce sera sa dernière campagne, a-t-il dit. Bon. Mais en attendant, il est bien installé. Effectivement, il a bien verrouillé le pouvoir, même s'il y a des contestations très fortes quand même à l'intérieur. Et souvent, d'ailleurs, dans les dictatures, les coups d'État se font justement dans l'antichambre, c'est-à-dire au Parti communiste. On l'a vu aussi en Chine dans les contestations. On le voit dans d'autres dictatures. Donc il faut qu'il surveille plus ses propres amis d'ailleurs que ses ennemis. Mais effectivement, attention, Navalny était un produit de l'Occident. Il était fabriqué par l'Occident. Il était mis en avant par l'Occident. C'est pas lui faire honte du tout.
Il a un poids électoral assez faible.
Exactement, exactement. Mais parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus à droite, en fait, les opposants. Mais effectivement, l'affaire est gagnée d'avance. Alors, moi, je dirais pas que c'est si tripatouillé, excusez-moi de ce terme. C'est que c'était assez fluide dans un certain nombre d'oblasts. Par contre, il y a eu deux oblasts dans l'extrême-orient russe où ils n'ont pas été pro-Poutine dans les dernières élections et ils ont juste été remplacés, les gens. Voilà.
Donc, il y a des mairies qu'il avait perdues. Hein.
Oui.
Bon. C'est compliqué de se faire une idée de quelle est l'opinion russe. Aujourd'hui, ce qu'on sait, on parle de démocratie, c'est que les Russes gardent un très mauvais souvenir de la démocratie, de la période Helsinki, qu'ils ont eu le sentiment que leur pays se faisait dépecer. Oui. C'est là où l'Occident a commis une véritable erreur, parce qu'on n'a pas construit une véritable démocratie, mais on a laissé la Russie aux mains d'oligarques qui l'ont dépecé. C'était un pays au bord de l'implosion. Donc les Russes ont ce souvenir-là et privilégient l'ordre, je dirais, sur les contre-pouvoirs démocratiques.
Bon. Et puis, il ne faut pas trop se faire d'illusions aussi. On parle du scrutin pendant 3 jours. Ce n'est pas pour rien aussi sur la question du contrôle de ces élections, sur la pression aussi. Je pense qu'il faut faire attention.
Chacun s'organise.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on est quand même dans une sorte de théâtre aussi. C'est très théâtral. Et il y a quand même... c'est vraiment une démocratie totalement de façade. Et je pense que personne ici qui peut le contester.
Il va être l'heure de se quitter. La petite revue de presse dans une seconde. Juste une dernière. Et Marine Le Pen n'a toujours pas tweeté?
Non, pas à ma connaissance.
Ah non. Comme quoi.
Vérifie, évidemment.
Il a réussi son coup.
Après, faut avoir en tête juste un élément.
Vraiment très vite, on conclut. Hein.
Du côté russe, lorsqu'ils voient les accusations des Occidentaux qui vont dire oui, mais vous bidouillez, ils disent que du côté ukrainien, l'élection, elle est reportée et qu'il y a des problématiques aussi. Ce que je veux dire, c'est que dans la tête d'un conflit entre Ukrainiens et Russes, ils ont des arguments à mettre en avant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, mais.
Voilà ce que l'on pouvait dire au moins ce soir de cette intervention présidentielle et de la situation donc entre les Français, les Russes, l'Europe, l'OTAN. Et puis la suite, elle appartient à l'histoire, hein, mon général, comme on dit. Et on aura l'occasion d'en parler de nouveau ensemble. Dans vos kiosques demain, très vite.
Non, je veux dire, Emmanuel Macron a raison sur une chose quand il avait parlé de la fin de l'insouciance. Il y en a qui étaient encore insouciants là-dessus.
C'est ça. Et bien, de moins en moins avec cette déclaration, sur cette interview. Rapidement, Le Figaro demain dans vos kiosques. La participation en jeu décisif pour les élections européennes. Pour Le Figaro qui nous met en une également Sylviane Agazinski de l'Académie française. La liberté au service du féminisme, les échos, fast fashion. Ah oui, tout le monde parle de ça en ce moment, la fast fashion, la mode qui dérange parce que c'est très très nocif pour la planète, paraît-il. West France, la crise dans le bâtiment, le désarroi des artisans. J'ai pas vu une encore avec l'interview d'Emmanuel Macron.
Non, il y a un appel en une, un petit Emmanuel Macron quand même.
Un appel
en Ukraine, la Russie ne doit pas.
Ah oui, mais c'est petit, je trouve que c'est un petit peu discret. Sud-Ouest, qu'est-ce qu'on a derrière les amis? Allez-y, parce que je vous suis. 16 mois sans train entre draps et tendre. Eh bien, écoutez, et si on les transformait en logements, les bureaux, oui, ça aussi, c'est une question du moment. On enchaîne avec, parce que je ne les ai pas sur le papier, donc je les découvre à l'antenne. Un premier débat dans le vif des Européennes, oui, ce sera.
C'était
Monsieur Glucksmann contre.
Ce soir, il y avait l'intégralité des publics de liste, à l'exception de Jordan Bardella. Là, remplacé par Thierry.
Eh ben, on regardera ça. On a fini? Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les 6. Merci mon général. C'était un plaisir de vous entendre. Mais j'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur ce plateau. Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie Deleplace ont préparé cette émission. Je les en remercie. Je vais vous abandonner quelques jours, Alexandre, si ça vous dérange pas. Finissez votre conversation. Moi, je parle au téléspectateur. C'est Thierry Cabanne qui va prendre la suite la semaine prochaine. Je vais faire quelques grasses matinées. Puis je vous retrouve en pleine forme, cher Alexandre et cher tous. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end sur CNews.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.